Bonjour à toutes et à tous. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui Christ notre Pâque. Christ notre Pâque à la recherche des ombres. Nous commençons le message d'aujourd'hui d'où nous nous sommes quittés la semaine dernière, c'est-à-dire sur le chemin d'Emmaüs avec le Seigneur Jésus et ses deux disciples inquiets. Sur la route d'Emmaüs, le Christ ressuscité rencontre deux de ses disciples. En marchant avec eux, il a réprimandé leur incrédulité et leur a appris à lire la Bible. En particulier, il a déclaré, je cite de Luc 24, 26 à 27, « Ne fallait-il pas que Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le Nouveau Testament accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament en Christ, pour les Juifs comme pour les païens. Le Nouveau Testament explique la personne et l'œuvre de Christ en montrant comment il accomplit l'Ancien Testament. Ensemble, ces deux testaments forment une unité de la parole de Dieu révélée progressivement. Dans ces deux versets, Luc saisit la façon dont Jésus a interprété l'Ancien Testament. Il ne l'a pas lu comme un livre pour Israël seulement, il l'a lu comme un témoignage unifié pointant vers lui-même. Après son retour, Jésus a dit de nouveau, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans le psaume. » Luc 24, 44. Cette fois, Jésus donne les limites de l'Ancien Testament, déclarant que chaque section de la Bible hébraïque, la loi, les prophètes et les autres écrits de l'Ancien Testament pointaient vers lui. Le Nouveau Testament accomplit les promesses de l'Ancien Testament et complète tout ce que Dieu a commencé dans la loi, dans la loi et les prophéties. Jean 1, 45, cette déclaration massive trouve le soutien de Jésus qui a dit de son ministère, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, 17. De même, Paul écrit en 2 Corinthiens 1, 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui et pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Donc quand je dis à la chasse des les ombres, la Bible dit clairement que les choses de l'Ancien Testament, c'est comme les ombres pour des choses à venir. Donc nous allons partir un peu en arrière pour trouver ces ombres. En plus de l'inspiration divine, nous trouvons un message commun dans la Bible, ou mieux, un personnage commun. Comme Jésus l'a reconnu, les Écritures, et Jésus l'a dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5, 39. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, déclare le premier verset de Hébreux chapitre 1. Et ainsi, les deux testaments pointent vers Jésus. Il y a seulement quelques jours, nous avons célébré Pâques, la semaine dernière, et il serait profitable pour nous de revenir aux racines de cette célébration. Pour comprendre ce que les Écritures ont à nous dire sur cet agneau pascal. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans chapitre 12 du livre d'Exode, le deuxième livre de la Bible. Exode, chapitre 12. On a parfois la tendance de faire la fête, soit c'est Noël ou la Pâque. Après, on ne touche plus ces parties de la Bible. on passe à autre chose. Mais c'est important même de creuser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comme une enquête. Et donc, Exode 12, on va lire le premier 14 versets. Exode 12, verset 1. « L'Éternel dit à Moïse et Aaron, dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Verset 8. « Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Verset 14. « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » C'est la parole de Dieu. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, a déployé sa puissance puissante avec 9 plaies. Le chapitre 12 de l'Exode rapporte le dernier des 10 plaies, qui fut la mort de tous les premiers-nés en Égypte. Pharaon a été têtu, dur, jusqu'à la fin amère, le chapitre 11, 9 à 10, qui est sur le point d'arriver, mais avant que Dieu ne force Pharaon à libérer son premier-né, Dieu l'appelle Israël, son premier-né, parmi tous les autres peuples, libérer son premier-né en prenant le premier-né de Pharaon. Nous avons cette pause dans le récit où Dieu ordonne la fête de la Pâque avant que la Pâque ne se produise. Dans le cas du premier-né d'Israël, la justice était satisfaite de toute revendication de justice, pleinement satisfaite par la mort de l'agneau pascal de substitution. Le sang de l'agneau pascal était un type de l'agneau de Dieu, Christ notre Pâque. Le mot Pâque, Passac, signifie passer pour déployer les ailes, pour épargner, préserver ou protecteur, ou tout simplement passer par-dessus. Regardez le verset 2 de ce chapitre 12. « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. » L'importance de cette fête annuelle et de l'événement qu'elle célèbre est soulignée par le fait que Dieu réoriente tous les calendriers d'Israël autour de la Pâque. Dans l'ancien Proche-Orient, tous les calendriers étaient basés sur le cycle de la nature, de sorte que la nouvelle année commençait avec la nouvelle saison de croissance et de la nature. C'est ce temps de printemps. Ici, Dieu concentre le calendrier d'Israël non pas sur la nature ou la création, mais sur la grâce ou la rédemption. Mais je pense que dans beaucoup d'autres cultures, c'est ainsi. Je pense qu'il y a 2 jours, on a fêté le nouvel an tamoul dans le calendrier tamoul. Donc, c'est ainsi. Avec la nature, l'homme, il a créé son calendrier. Ici, Dieu concentre le calendrier d'Israël non pas sur la nature ou la création, mais sur la grâce ou la rédemption. Israël doit compter leurs jours selon les actes puissants de Dieu. La nouvelle année a commencé le mois où Dieu a délivré son peuple d'esclavage en Égypte. Nous voyons combien Dieu il prend au sérieux la nouvelle vie de ses enfants, la nouvelle naissance de ses enfants, pour leur rappeler que leur nouvelle vie a commencé lorsque Dieu a passé au-dessus d'eux alors qu'ils traversaient l'Égypte. Dieu leur a donné cette célébration de la Pâque dans le premier mois de leur nouveau calendrier, le mois de Abib, ou autrement dit, c'est le mois de Nissan. Alors que Israël célébrait également le cycle de la nature avec leurs voisins païens. Dieu voulait s'assurer qu'ils n'oubliaient jamais qu'ils devaient leur vie à leur action, à l'action rédemptrice de leur Dieu. Il fait référence à un moment et à un lieu spécifique de l'histoire d'Israël où le jugement de Dieu est passé et où le Seigneur a veillé à protéger ceux qui avaient confiance en lui. La Pâque juive est un beau type de salut que Dieu a fourni. C'était une profession de foi en Yahvé, le Sauveur, son peuple de l'ange vengeur de la mort. Au temps de Christ comme au nôtre, 2 jours étaient nécessaires pour célébrer la Pâque. Jésus, avec ses disciples, observa la Pâque. La première nuit, il fut même l'agneau pascal, la deuxième nuit. Si chaque berger était une abomination pour les Égyptiens, qu'est-ce qu'un agneau dans le sacrifice à la Pâque leur ferait faire? Vous devrez souvenir que les enfants d'Israël, ils fêtaient la Pâque quand ils étaient encore en Égypte. Et le berger était une abomination pour les Égyptiens, et encore l'agneau. Et car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Quand nous lisons l'histoire de Joseph en Genèse 46-34, quand il donne ce pays de Goshen, ce sujet est encore une abomination pour beaucoup de gens. Le berger, l'agneau, la Pâque, c'est toujours un sujet d'abomination pour beaucoup de gens dans ce monde. Christ, notre Pâque, est sacrifié pour nous. L'agneau pascal était un sacrifice de substitution. Dans chaque maison juive d'Égypte, l'agneau pascal devrait mourir à la place du premier-né. De la même manière, le Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Comparons l'agneau pascal originel avec l'agneau pascal de Dieu qui est venu enlever le péché du monde. Donc dans ce chapitre, nous pouvons voir beaucoup d'enseignements, mais nous allons concentrer sur l'agneau pascal seulement. Nous allons voir qu'est-ce que c'est cet agneau pascal, agneau de Pâques. Agneau pascal doit être un agneau mâle de choix dans la fleur de l'âge. Regardez le verset 5, chapitre 12, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Exode 12, 5. Il devait mourir dans la plénitude de sa vie. L'agneau devait être tué dans la plénitude de sa vie. Jésus-Christ a commencé son ministère dans la fleur de son âge, vers l'âge de 30 ans. Il était un jeune homme. À l'âge de 30 ans, il commençait son ministère. Luc 3, 23. Mais maintenant, nous voyons un agneau. Voici un agneau qui est dans la fleur de l'âge. Et deuxièmement, on voit que ce sera un agneau sans défaut et sans tâche. Et qu'est-ce que ça veut dire, un agneau sans défaut et sans tâche? L'agneau pascal doit être parfait, sans aucune tache ou faute, d'une aucune sorte. Rien d'autre qu'un sacrifice parfait ne pourrait satisfaire l'exigence d'un Dieu saint et juste. Si un homme, je lis de Lévitique chapitre 22, 21-22, si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut, ou n'offrirait point qu'il soit aveugle, estropié ou mutilé, qu'il ait des ulcères, la gale ou une dartre, ou n'en ferait point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Bien que ces ordonnances sur le sacrifice étaient institué beaucoup plus tard, mais on voit que le premier sacrifice que les enfants d'Israël étaient demandés de faire, c'était un agneau sans défaut et sans tache. On ne peut pas offrir à Dieu parfait, un Dieu saint, ce qui est imparfait. Il doit être parfait pour être accepté. L'apôtre Pierre connaissait l'agneau parfait dans la vie. Il a écrit 1 Pierre 1, 18-19, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. » Sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Christ, Jésus-Christ, il était comme un agneau parfait, sans tache, sans défaut. On nous dit au début de son ministère que quand tout le peuple fut baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Et une voix sortit du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé. » En toi, j'ai mis toute mon affection. Luc 3, 21-22. Dieu le Père a témoigné de son absence de péché et a donc donné son acceptation. Donc, Jésus-Christ, il était né sans péché. Il a vécu ces trentaines d'années sur la terre sans péché. Et donc, Dieu, il a témoigné son affection sur son Fils. Il a dit, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Il faut savoir que Dieu il aime le pécheur, il ne haït pas le pécheur, il haït le péché. Mais quand l'homme il vit dans le péché, l'amour de Dieu, il ne peut pas être sur cette personne. Donc Jésus-Christ, il était sans péché et Dieu il témoigne, j'ai mis toute mon affection. Dieu le Père a témoigné de son absence de péché et donc donné son acceptation. Quiconque avait péché dans sa vie ne pouvait pas faire l'expiation de péché. Dieu ne peut se satisfaire que d'un sacrifice saint et pur. Le mot pour sans tache ou sans défaut est utilisé pour le sacrifice sans tache ni défaut et moralement d'une personne qui est sans défaut, irréprochable. On voit ça dans plusieurs passages dans la Bible. Et ça devrait être un agneau pascal, mâle, de choix, et dans la fleur de l'âge. Et ça devrait être un agneau sans défaut et sans tache. Et troisièmement, nous voyons que l'agneau pascal doit être surveillé. Regardez les versets 6, chapitre 12, verset 6. Vous garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Luc 11, 53-54 nous dit que les scribes et les pharisiens sont devenus très hostiles envers Jésus et complotaient contre lui pour le prendre dans quelque chose qu'il pourrait dire. Donc il était constamment surveillé. Jésus-Christ, il était constamment surveillé. Chaque mouvement, chaque parole qu'il prononçait, il était surveillé par les pharisiens, par les chefs religieux juifs. Chaque jour, les dirigeants juifs examinaient l'enseignement de Jésus dans le temple et les synagogues locales. Que pouvons-nous dire de Jésus après toute cette observation intense pendant 3 ans? Ils n'ont pas pu trouver la faute en lui. 1 Pierre 2, 22-24. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, dit l'apôtre Pierre. Jésus n'a commis aucun péché, ni avant, ni pendant sa souffrance. La souffrance de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas limiter juste à la croix. Depuis qu'il est né sur la terre, c'était un homme de souffrance, habitué à douleur. Mais il n'a point ouvert sa bouche. Et de la même manière, cet agneau pascal devrait être gardé jusqu'au 14e jour de ce premier mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. Donc, chaque famille devrait prendre un agneau pour sacrifice. Il devrait garder pendant 3 jours. Donc, il devrait prendre le 10e jour, ça devrait être sacrifié le 14e jour. Donc, il devrait garder pendant 3 jours. Donc, ça devrait être surveillé. Si l'agneau, il tombe malade, un accident, il ne peut pas être sacrifié. Donc, il devrait être dans un état parfait. Et ainsi, Jésus, il était surveillé par le monde entier. Jésus n'a commis aucun péché, ni avant ni pendant son souffrance. Il était complètement innocent en acte et en parole, parce qu'aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. Et après, on voit que cet agneau pascal qui était surveillé, il était nécessaire que l'agneau pascal soit tué. Ce n'est pas pour élever l'agneau pascal, il était choisi, mais pour être sacrifié, pour être tué. Et ce que nous voyons dans ce verset, verset 6, « Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. La mort doit être infligée soit au pécheur coupable, tout homme est un pécheur coupable de nature, sinon il faut un substitut innocent. La mort doit être infligée soit au pécheur coupable, soit à un substitut innocent. Le sang de la victime fut prélevé et répandu sur le poteau de porte et de linteau de la maison où habitaient les Israélites. Sans l'aspersion de sang, il n'y avait pas de salut, cette maison où habitaient les Israélites. Mais ce que ça va passer le jour même, l'ange passera et tous les premiers-nés se seront tués dans tout le pays d'Égypte. Mais dans chaque maison où l'agneau pascal était choisi, il était sacrifié, il n'aura pas de mort. Donc la condition, le mort doit être infligé soit au pécheur coupable, soit à un substitut innocent. Le sang de victime fut prélevé et répandu sur le poteau de la porte et de linteau et de la maison où habitaient les Israélites. Sans l'aspersion de sang, il n'y avait pas de salut cette nuit-là. Les agneaux ont été tués entre 3 et 5 heures l'après-midi, 15 heures et 17 heures l'après-midi, avant la Pâque, qui a commencé lorsque le premier rayon de lumière des étoiles a pu être vu dans le ciel. Donc le soir, l'après-midi, il devrait tuer cet agneau pascal. Le chef de famille représenté agissait au nom de chaque membre de la famille. C'est le chef de famille qui devrait accomplir ce sacrifice terrible. Je ne sais pas combien on peut plonger dans le verset pour comprendre cette situation. C'est une circonstance très grave. Dieu l'a déjà puni, le pays d'Égypte, avec 9 plaies. Le peuple souffrait. Mais la 10e plaie, le mort de premier-né, est tombé comme une condamnation. Et tous ceux qui vont obéir la parole de Dieu, les enfants d'Israël, ils vont faire comme Dieu l'a demandé de faire. Et le mort était partout. Le mort était partout, devant chaque maison. Le père de chaque famille, le chef de chaque famille, il devrait prendre l'agneau, il devrait sacrifier l'agneau, il devrait prendre et répandre le sang sur le linteau et le poteau de la maison pour que le mort n'entre pas. Lorsque Jésus était né devant Pilate, le peuple cria « Crucifie-le, crucifie-le ». C'était le consentement commun de toute la congrégation d'Israël. De manière représentative, Jésus se tenait à la place de chaque pécheur croyant. Quand le peuple criait « Crucifiez-le », Jésus le tenait devant Pilate comme si il représentait vous et moi, devant chaque pécheur croyant. Jésus est mort au moment même où l'agneau pascal était tué dans le temple de Jérusalem. La mort de Jésus s'est coïncidée avec la fête de Pâques. Donc, et des milliers d'agneaux étaient sacrifiés le même moment dans le temple de Jérusalem. Et Jésus tenait devant Pilate pour être condamné à la mort. Et c'est la même heure. C'est presque la même heure. Des milliers d'agneaux ont été tués cette première nuit de Pâques en Égypte. Mais il est intéressant de noter que tout au long de ce chapitre 12, le singulier est utilisé pour désigner l'agneau. Ce n'est pas des agneaux, mais l'agneau. Il parle toujours de l'agneau. Et qui est l'agneau? C'est l'agneau de Dieu. Chaque famille en Israël tuera l'agneau, pas des agneaux. Il n'y avait qu'un seul agneau dans la pensée de Dieu. Il y avait un seul agneau dans le cœur de Dieu cette nuit-là, l'agneau de Dieu au calvaire. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. La flagellation et la mort de Jésus ont accompli la guérison spirituelle ou le salut de chaque individu qui lui fait confiance comme son sauveur. Et selon la loi, on peut dire que presque toutes choses sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Car Christ, notre Pâque, a été immolé, dit Paul dans son premier épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Jésus s'est donné lui-même en rançon pour nos péchés. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et Marc 10, 45, le mot « racheter » signifie « libérer par le paiement d'une rançon ».« Racheter » signifie « libérer par le paiement d'une rançon ». C'est une rançon à vie comme d'un esclave, et par conséquent, de libérer par le paiement d'une rançon. La rançon est le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus est le sang de Dieu. Jésus, il était Dieu. La divinité s'est incarnée dans l'humanité. Combien précieuse et coûteuse est la rédemption que Dieu a fournie dans le sacrifice expiatoire de son propre Fils. Plus littéralement, nous sommes rachetés avec le sang coûteux, avec le sang précieux, sont hautement honorés comme d'un agneau qui est sans défaut et sans tâche, le sang de Christ. Et par le sang de Christ que nous sommes rachetés du péché. C'est une image laïde du sang versé parce que le péché est laïde. On dit laïde, je crois. Oui. C'est une image laide du sang versé parce que le péché est laide. Si vous ouvrez le chapitre, le livre de Lévitique, on trouve le sang partout, n'est-ce pas? Il n'y a que de sang dans ce livre. Et ce n'est pas très beau à voir. Si vous pouvez imaginer le sang versé dans l'autel, ce n'est pas beau à voir. Et ni notre péché. Notre péché, c'est aussi moche que ça. Dieu devrait décrire combien c'est moche notre péché, l'air de notre péché. Nous sommes totalement dépravés et avons besoin du sacrifice parfait de Dieu pour le péché. La rédemption est un achat sur le marché du péché. La rédemption, c'est un achat sur le marché du péché. Imaginez qu'il y a un marché d'esclaves. On paye les rançons pour racheter un esclave. C'est le même sens que est utilisé ici. La rédemption, nous étions l'esclave du péché. Nous étions des esclaves de l'ennemi. Dieu nous a rachetés de la main de l'ennemi. Et après, sur l'agneau, les os de l'agneau pascal ne doivent pas être brisés. Et dans le passage que nous avons lu, non, c'est plus tard, hein. Je pense que c'est verset 23 ou quelque chose. L'os de l'agneau pascal ne doit pas être brisé. On ne la mangera, verset 46, Exode 12, verset 46, on ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Et nous voyons combien la parole de Dieu était accomplie dans la vie de Jésus, qui était l'agneau de Dieu. Et nous lisons en Jean 19, 33, 36. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre, qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu en l'a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. Et toutes ces choses que Dieu l'a écrit pour nous, puisqu'on peut, on peut croire en lui, croire en sa parole. Verset 36, les choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Il garde, le psalmiste, en psaume 34, 20, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Tout ça, c'était écrit centaines d'années, milliers d'années avant que le Seigneur soit crucifié sur la croix, avant sa mort. Et après, on voit que le sang de l'agneau pascal devrait être appliqué correctement comme prescrit. Et le verset 7 de chapitre 12, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc, on ne peut pas prendre l'agneau sacrifié dans la maison et apporter ce sang pour asperger sur le poteau de notre maison. Ici, c'est marqué très clairement, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Nous devons nous approprier par la foi la mort de Jésus pour nos péchés. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Et donc chaque maison, chaque famille devrait prendre un agneau pour sacrifier le soir et il devrait retirer le chef de cet agneau, il devrait manger. Nous avons vu comment il devrait manger en hâte, avec le bâton dans la main, celui au pied. Il devrait manger en hâte. Et le sang, il devrait récupérer le sang dans un bassin. Il devrait asperger le sang avec l'hysope dans le poteau et le linteau de l'entrée de chaque maison. Et c'était très clairement indiqué. Et donc, chaque maison, chaque Israélite, le chef de la maison, est instruit d'appliquer comme c'était écrit dans la parole de Dieu. Il ne peut pas faire comme il veut. Dieu avait raison de dire cela. Et après, on voit le chair de l'agneau pascal doit être consumé dans la maison. Et regardez le verset 8 à 11. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et les herbes amères. Et pains sans levain parce que il devrait partir tout de suite après. Il mange le pain, il part après. Donc, il n'y a pas de temps pour laisser le pain lever. Donc, c'était un pain sans levain. Et des herbes amères. Les herbes amères, signifient leur temps d'esclavage en Égypte. Verset 9, « Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » C'est ainsi qu'il faut manger la Pâque. Le Saint-Esprit réveille notre cœur pécheur et dépravé, mort dans les offenses et les péchés, pour voir Jésus-Christ comme l'agneau immolé en notre faveur. C'est l'agneau immolé, le jour de Pâques, le premier Pâques, ça signifie le Seigneur Jésus-Christ qui était immolé. La Bible parle qu'il était l'agneau immolé même avant la fondation de la terre. Dieu, dans sa grâce souveraine, nous donne la foi de recevoir Christ comme notre sauveur personnel. Paul le dit dans son épître aux Galates, « Il m'a aimé et s'est livré pour moi. » Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Le peuple d'Israël, il était en Égypte, il ne peut même pas penser à Dieu. Mais Dieu a entendu leur murmure, leur lamentation, leur pleurs. Dieu a vu leur larmes. L'agneau de Dieu est mort comme mon substitut. Il est mort à ma place. Il est mort en mon nom. Je m'approprie par la foi le fait qu'il est mort pour mes péchés. Un sauveur fourni n'est pas suffisant dans le sens qu'il doit être reçu. Le sauveur fourni n'est pas suffisant dans le sens qu'il doit être reçu. Il doit y avoir foi en son sang. Romains 3, 25. Et la foi est une chose personnelle. Je dois, par responsabilité personnelle, d'exercer ma foi en Jésus-Christ, qui est mort pour moi. Je dois, par la foi, prendre le sang et me réfugier sous lui. Je dois le placer entre mes péchés et un Dieu saint. Vous savez, dans ce passage, nous voyons que l'ange, il passe devant chaque maison et la famille israélite, il était caché derrière la porte. Et quand l'ange, il voyait le sang, il passait par-dessus. Il frappait par cette maison. En même temps qu'on entendait des pleurs et des grincements dans les autres maisons où il n'y avait pas de signe de ce sang, où il n'y avait pas le sang aspergé. Je dois le placer entre mes péchés et un Dieu saint. Être sauvé par la foi, c'est compter sur l'agneau de Dieu comme seul motif de mon acceptation par lui. On ne peut pas faire autre chose. On ne peut pas mettre autre chose. Même la porte blindée ne peut pas garder l'ange de frapper cette maison. Rien ne peut me protéger de cette colère de Dieu. C'est seulement le sang de l'agneau qui est immolé qui peut me sauver. La justice d'un Dieu saint exige l'acquittement de tout croyant en Christ. Non seulement Dieu a pourvu à le salut de l'ange de la mort, mais il a aussi nourri leur voyage. Non seulement Jésus nous sauve du péché, mais il fournit aussi le pain quotidien pour notre vie spirituelle. Vous savez, le Pâques, il mange le Pâques, après il part en voyage. Mais non seulement Dieu il a arraché de la main d'esclavage, mais il a aussi nourri pour puisqu'il peut tenir le voyage. Nous devons venir à lui pour nourriture tous les jours. Ce que nous avons mangé comme nourriture spirituelle hier ne sera pas suffisant pour aujourd'hui ou demain. C'est un festin quotidien du Christ. Changer la métaphore et le besoin de subsistance quotidienne deviennent parfaitement clairs. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc nous devions prendre la nourriture en Jésus-Christ, notre agneau pascal qui était immolé. Un autre point, l'agneau pascal de Dieu offre une protection parfaite contre le jugement de Dieu. C'est la seule protection contre le jugement de Dieu. Il n'y a pas d'autre protection. Lorsque nous sommes sur le point de signer un contrat d'assurance, on nous dit que tout est couvert par le régime d'assurance. Je pense que vous avez tous subi, et moi aussi. Ils disent que non, c'est parfait, vous êtes couvert à 100%, même à 150%, 300%. Hein. Je ne sais pas comment c'est, mais pendant la période de trouble, on nous dit qu'en vertu de certaines clauses qui se cachaient derrière des étoiles, nous ne sommes pas couverts de nombreux ennuis. Ce n'est pas le cas de Dieu. Nous pouvons lui faire confiance. Il est digne de notre confiance. Il est porté garant de son Fils unique en notre faveur. Exode 12:13, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13, le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Mais quelle belle assurance que nous avons! Quelle belle assurance que le peuple d'Israël, ils ont eu. Dieu dit, je vais ravager le pays d'Égypte par la mort de premier-né, mais vous, vous serez gardés par le sang de l'agneau. Le plaie qui vous frappe, qui va frapper le pays d'Égypte, vous frappera pas. Point. Et Dieu, il a signé par son sang. La mort de l'agneau et l'aspersion de son sang ont fourni le seul refuge sûr contre le jugement de Dieu. Tous les premiers-nés qui n'étaient pas couverts par l'agneau pascal ont été tués cette nuit-là. L'apôtre Jean a reconnu cette grande vérité quand il a écrit que Christ, lui-même, une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Lui-même est la propitiation pour nos péchés. Péché, 1 Jean 2:2, et encore à 1 Jean 4:10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous pensez que cette nuit-là, quand le peuple d'Israël, il attendait derrière la porte, il aimait Dieu? Peut-être qu'il avait peur de Dieu, parce qu'ils ont vu le prodige que Dieu a opéré dans le pays d'Égypte. Mais vous pensez qu'ils aimaient Dieu au profond de leur cœur? C'est Dieu qui a aimé ses enfants. Quand il était encore esclave, Dieu qui a aimé ses enfants. Romains 3:25 parle de Christ que Dieu a montré publiquement comme une propitiation dans son sang par la foi. Christ est le moyen par lequel notre péché est couvert et remis. Une propitiation correcte est le détournement de la colère d'un Dieu saint pour une offrande. La colère sainte de Dieu est contrôlée et réglée contre tout péché. La propitiation et l'apaisement de la colère de Dieu par l'amour de Dieu, par le don du sacrifice de Dieu. Christ est le sacrificateur et le sacrifice pour notre péché. L'initiative est prise par Dieu lui-même dans un pur amour immérité. Il détourne sa propre colère par son propre sang. La justice de Dieu est maintenant satisfaite. Notre dette de péché a été payée, sa sainteté est satisfaite et la colère de Dieu est apaisée. Vous savez, quand Jean-Baptiste a vu Jésus et il a déclaré, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il a vu cet agneau pascal quand il a vu Jésus. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Jean, dans son épître, il écrit, « Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Nous lisons ainsi à Hébreux 10 à 14, je vais lire pour vous. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour, le service offre souvent le même sacrifice qui ne peut jamais ôter les péchés. Voyez les 100 versets dans le livre de Lévitique dans l'Ancien Testament. Des milliers d'animaux tués. On dit qu'à côté du temple de Jérusalem, il y avait une petite ruisselle, à Kidron, je pense, une petite fleuve. Et ils disent que ça coulait du sang pendant la fête de Pâques. Il n'y avait que le sang qui a coulé pendant la fête de Pâques. Et autant d'agneaux qui étaient tués. Mais ici, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attendons désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et c'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le sacrifice parfait de Seigneur Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ est la propitiation pour tous nos péchés. Son sacrifice détourne la colère de Dieu. C'est Dieu qui est propitié par sa propre provision faite dans le sacrifice par procuration substitutive et expiatoire du Christ. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham, quand Abraham il était appelé pour sacrifier son fils Isaac. Et Isaac il a posé la question, « Père, il y a le bois, il y a le feu, mais il est où l'agneau pour le sacrifice ?» Et ce que Abraham il a dit, le Seigneur pourvoira dans son montagne. Et finalement, quand Dieu demande à Abraham d'arrêter ce sacrifice, de tuer son fils, Dieu lui montre un agneau pour le sacrifice. Et le mort de Jésus-Christ est la propitiation pour nos péchés. Son sacrifice détourne la colère de Dieu. Et Dieu qui est propitié par sa propre provision faite dans le sacrifice pour procuration, substitutif et expiatoire de Christ. L'homme a péché, Christ annule le pouvoir du péché de séparer Dieu et l'homme. Notre Pâque ne couvre pas seulement nos péchés, mais il détourne la colère de Dieu que nous méritons et Dieu peut nous regarder avec sa faveur. Le repas de Pâques était un souper commémoratif. Donc les enfants d'Israël devraient faire la Pâque, célébrer la Pâque chaque année de le dixième jour de la première mois de l'année, ils devraient faire ce sacrifice. C'était au même moment que Jésus-Christ il a donné sa vie. La Pâque devait être célébrée chaque année en souvenir de ce que Dieu avait fait en délivrant Israël hors d'Égypte. Chaque année, chaque famille se concentrait sur ce repas et la signification de chacun des éléments du repas. Donc, il devrait penser à tout ce que Dieu l'a prescrit, comment il faut faire ce sacrifice, comment faire. Au moins une fois par an, chaque famille en Israël savait ce que Dieu faisait à la Pâque en Égypte. Mais je pense que pendant l'époque de Jésus, tous ces souvenirs étaient corrompus et même oubliés. Ils faisaient comme un rituel, même pas pensant à ce que Dieu l'a fait. Peut-être qu'ils pensaient que Dieu l'a sorti de l'esclavage, mais il n'avait pas ce lien avec le vrai Dieu. Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples, comme tous les Juifs le faisaient, comme le peuple le faisait. Nous lisons Matthieu 26 et 1 Corinthiens 11. Lors de la dernière Pâque, la transition a été faite vers le repas commémoratif de l'agneau de Dieu qui a enlevé nos péchés. Célébrer convenablement l'ordonnance de la scène du Seigneur est un rappel de ce que Jésus a accompli à notre faveur. Nous, nous faisons chaque premier dimanche du mois et nous devrions souvenir de ce que le Seigneur il a fait pour nous. C'est un message du salut de la famille de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. Nous venons à la table de communion et célébrons sur la base de la rédemption accomplie. Le sacrifice expiatoire de Christ a été accompli. Maintenant, il est temps de se souvenir et de célébrer. C'est une excellente méthode pour enseigner et prêcher le sens de l'amour sacrificiel de Jésus. Quand nous rassemblons devant la table du Seigneur, mais je pense que beaucoup de prédications, il ne peut pas donner ce message que la table du Seigneur il peut nous enseigner. Le sang de l'agneau ne doit pas être piétiné. Vous voyez comment? Et dans le... Regardez dans le chapitre 12, versets 22 et 23. Exode chapitre 12, versets 22 et 23. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hyssope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous savez, normalement, une entrée, c'est comme un cadre. Hein? Ça devrait, ici, nous voyons les trois côtés, deux latéraux et un horizontal en haut. Mais en bas, il n'y avait rien. Il n'y avait pas le sang versé sur le seuil. Donc, il ne devrait pas mettre l'asperger le sang sur le seuil de la porte, mais sur les deux poteaux et le linteau. Nous devrions remarquer ici que le sang de l'agneau ne doit pas être mis sur le seuil. Il ne faut pas le piétiner. Ne piétinez pas le sang de l'agneau de Dieu. Quelle tragédie quand les hommes rabaissent le sang de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la disposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance pour lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Et Hébreux 10, 28, 29. Et le précieux sang de l'agneau, agneau sans tache, sans défaut, était versé et s'était appliqué sur le linteau de la maison et le poteau de la porte. Mais jamais sur le seuil. Et en Hébreux 9, 13 à 14, nous lisons que si le sang de taureau et de bouc et le sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de l'œuvre morte afin que vous serviez Dieu vivant. Nous ne pouvons pas mépriser ce sang versé. Nous ne pouvons pas mépriser le sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. La grande application qui sort du sacrifice pascal est l'assurance et la sécurité de notre salut par l'agneau de Dieu. L'apôtre Pierre a prêché, Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Et en cette nuit-là, quand l'ange de mort a frappé le premier-né, il n'y avait pas une autre méthode pour être sauvé. Quand le déluge est tombé sur la terre, il n'y avait pas un autre moyen pour être sauvé, sauf que l'arche que Noah a construit. Il n'y avait pas notre nom pour être sauvé parmi les hommes. La sécurité du croyant ne se trouve que dans le sang appliqué de l'agneau de Dieu. Il ne peut y avoir d'autre fondement à la sécurité éternelle. Les sentiments n'ont rien à voir avec notre sécurité. On peut penser que je suis sauvé. Ce n'est pas être sauvé, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas des émotions. Comme le peuple d'Israël, il y a longtemps, nous devons compter sur l'agneau seul pour couvrir tous nos péchés. Quand Jésus a crié « Tout est accompli », tetelestai, ce mot, il y a plusieurs sens, commercial, dans beaucoup de choses, que tout est accompli, tout était payé. Nous avons été délivrés une fois pour toutes de toute condamnation. Rien d'autre que le sang ne peut couvrir nos péchés. Rien d'autre que le sang de l'agneau ne peut couvrir nos péchés. Avez-vous mis votre confiance en Christ seul pour vous sauver pour toute l'éternité? C'est le don gratuit de Dieu et tout ce qui invoque son nom, Jésus-Christ, et l'agneau pascal immolé. Que Dieu bénisse sa parole. Imaginez cette nuit-là quand l'ange de mort a frappé le pays d'Égypte. Et il y avait des pleurs entendus dans chaque maison d'Égyptiens. Et les enfants d'Israël, ils étaient saignés sauf derrière la porte. Quand le soleil se lève, il ouvre la porte pour trouver qu'il était sauvé par le sang de Christ. Quelle consolation, quel soulagement il aurait pu avoir. Mais avec le même esprit, nous pouvons chanter ce cantique 43. Sauvé, combien j'aime le vivre. Imaginons que nous étions dans ce moment, dans le pays d'Égypte, dans le camp d'Israël, et nous étions sauvés, nous étions épargnés par le sang de Christ. Je vous demande de vous lever pour chanter ce cantique. Sauvé, combien j'aime le dire.